Bonjour à tous, bonjour aux Zoomers aussi. J'espère que vous pardonnerez ma voix, je fais au mieux. Alors, merci Antoine aussi parce que ta présidence, elle a fini par l'espérance et on va continuer à parler de l'espérance. Mais d'abord, en ce jour de Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux, vous savez ça. 1 Corinthiens 13 nous dit « Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. » Donc, on va juste avoir une réflexion sur l'espérance ce matin. L'espérance est citée plus de 100 fois dans la Bible et certainement encore beaucoup plus si on compte le verbe « espérer » et ses conjugaisons. C'est dire, je pense, toute son importance. Et dans ces temps particuliers de pandémie, les hommes, les femmes aussi, mais quand je dis les hommes, c'est générique. Les hommes espèrent retrouver une vie plus normale, celle d'avant la Covid. Les réfugiés qui quittent leur pays pour un voyage périlleux le font parce qu'ils espèrent aussi trouver une vie meilleure. En ce jour de Saint-Valentin, les amoureux espèrent pouvoir construire ou continuer ensemble une vie heureuse. L'homme est un être d'espérance, bien que celle-ci le déçoive souvent. Alors, qui que nous soyons, quelle que soit notre situation, nous espérons quelque chose. Un philosophe suisse disait, c'était au 19e, « Les gens sans espérance errent encore parmi les vivants, mais ils sont déjà morts. » Et puis un autre penseur suédois, lui, il était un peu plus vieux, c'était au 17e, « Tant que l'espérance l'accompagne, quelque disgrâce qui puisse arriver, l'homme se soutient. Et encore, l'espérance, c'est elle qui fait revivre les esprits les plus abattus. » Donc l'espérance est centrale dans la vie de l'homme, avec la foi et l'amour. Elle fait partie de ces trois vertus qui lui donnent la force de vivre et de continuer à aller de l'avant. Et après avoir cité ces deux philosophes, je citerai encore deux versets parmi les très nombreux qui parlent de l'espérance. Dans Job, au chapitre 5, « L'espérance soutient le malheureux ». Dans le psaume 71, au verset 5, « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel ». En toi, je me confie dès ma jeunesse. Alors, avant d'aller plus loin, il faut déjà s'entendre sur ce que signifie ce mot espérance. Avec l'évolution du langage, le mot a changé de sens et se rapproche plus souvent à l'espoir, à la notion d'espoir. Or, l'espoir, d'un point de vue humain, est très relatif. Incertain. Il repose parfois et souvent sur un optimisme mal réfléchi et souvent pas adulte. Nous pensons que des choses positives vont se dérouler plus ou moins prochainement, mais nous n'avons aucune garantie qu'elles arrivent un jour. Ainsi, Paul encourageait les riches, c'est dans Timothée, à ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. On ne sait jamais ce qui peut arriver. D'un jour à l'autre, tout peut basculer. On l'a vu en bourse quelquefois, mais on l'a vu bien avant. L'histoire de Job nous le montre. Et devant son incapacité à maîtriser son avenir, l'homme préfère s'en remettre à des objectifs à court terme. Rien que le fait d'envisager que ces objectifs puissent ne pas être atteints le font vivre dans une peur et une anxiété croissante, constante. Il en a ainsi le cœur malade, dit l'auteur des Proverbes. C'est au chapitre 13 des Proverbes. Mais si on envisage l'espérance selon une vision chrétienne, on peut se rendre compte que l'espérance et l'espoir sont très différents. Si l'espoir est avant tout une vertu humaine, l'espérance qui est versée dans nos cœurs possède avant tout une origine divine. La foi change tout. Hébreux 11, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pardon. Une démonstration rend une chose sûre, certaine. L'espérance n'est pas relative ou incertaine, elle est absolue. Certaine, elle est garantie par Dieu. Paul dira à Tite que l'espérance a été promise avant tous les siècles par le Dieu vivant qui ne ment pas. Si l'espoir est comme une anguille qui vous file entre les doigts, l'espérance est pour nous comme une encre sûre et solide, une encre de l'âme. C'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui nous dit. L'espérance ne nous sert pas juste à tenir quelques temps, quelques mois ou quelques années. Mais elle trouve tout son sens et tout son but dans l'éternité. Elle déplace nos regards de tout ce qui est terrestre, éphémère, vers un horizon beaucoup plus lointain, mais qui nous rend ferme, confiant et en paix. Mais alors, qu'est-ce que l'espérance? Qu'est-ce qu'elle est pour nous? Quelle est cette chose que ce Dieu qui ne ment pas nous garantit? Il s'agit pour nous d'un héritage, celui de la vie éternelle, la promesse d'habiter dans un royaume de Dieu, d'y vivre toute l'éternité, sans pleurs ni deuil, mais dans la paix, l'amour, la joie et en présence de notre Seigneur. Notre espérance, c'est lui. Autrement dit, Dieu nous appelle à un futur glorieux qui est d'une portée universelle et éternelle. Une perspective de grâce et de gloire qui contraste avec le manque de perspective que notre monde nous offre aujourd'hui. Beaucoup de nos concitoyens manquent d'espérance, manquent d'avenir. Pas seulement d'un avenir terrestre, mais de l'avenir céleste. Un avenir qui leur donnerait la force de continuer à vivre. Cette vie éternelle et ce qu'elle recèle de grâce, de gloire, de beauté, de paix, est donc promise par un Dieu fidèle. Un Dieu qui, lorsqu'il parle, cela s'accomplit. Il a parlé et notre univers a été créé. Alors la question qui se pose à nous est de savoir si nous mettons véritablement notre confiance en Dieu et en sa fidélité. Lorsque chaque jour dans notre quotidien on avance avec un peu le nez dans le guidon parce que on a des besoins, des responsabilités, on cesse de voir le reste du paysage, ce qui est plus loin. On arrête aussi de voir le chemin parcouru et le chemin à parcourir, ce qui reste à franchir. Quand nous sommes trop préoccupés du présent, on cesse de se souvenir combien Dieu a été fidèle par le passé et combien il le sera aussi dans notre avenir, dans notre futur. Maintenant, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Et c'est ici que nous trouvons le lien entre ces trois vertus qui sont la foi, l'espérance et l'amour. Or, la foi, elle fait quelque part référence au passé. Elle nous ramène à l'œuvre de Dieu, celle qu'il a faite à la croix pour notre salut et qui nous est acquise. Par exemple, Paul dira aux Romains que notre vieil homme a été crucifié à la croix. C'est écrit au passé, il a été crucifié. C'est quelque chose d'accompli. Mais la foi nous ramène aussi à ce que Dieu a fait dans nos vies, à ses nombreuses interventions de bienveillance. Parce que Dieu est le seul qui ne ment pas, parce qu'il a prouvé sa fidélité. Il l'a prouvé pour nous dans notre passé, dans le temps. Nous pouvons être assurés que ce qu'il promet, il le réalisera aussi parfaitement. Sa victoire sur la mort est certaine. Et la vie éternelle qu'il nous garantit est certaine aussi. La parole de Dieu nourrit nos confiances en lui et nous aide à vaincre les peurs que nous pourrions y avoir, que nous pourrions avoir quant à notre futur immédiat, plus lointain et même éternel. L'espérance, elle, fait référence au futur, à ce royaume inébranlable que Dieu nous a promis et que nous attendons. L'espérance est ainsi pour nous un gage de notre victoire, victoire sur la tristesse qu'engendrent toutes les souffrances et difficultés que nous pouvons rencontrer dans la vie. Rassurés, en paix quant à notre futur et encouragés par notre passé, nous pouvons alors nous concentrer sur notre présent. Et notre présent, c'est quoi? Notre présent, c'est aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes. À cause de ce que Christ a accompli à la croix pour nous et à cause de ce futur glorieux qui nous attend, nous sommes assurés de l'amour de Dieu pour nous. Christ nous a réconciliés avec Dieu. Et c'est sur la base de cet amour divin que nous pouvons à notre tour nous aimer les uns les autres. C'est ce que Dieu nous invite à faire et puis plus que nous inviter, il nous l'ordonne. Et ça, c'est au présent qu'il faut s'aimer. Mais de façon plus pratique encore, l'amour peut nous aider à vaincre la colère. Alors, quand nous sommes en colère, souvent, c'est parce que nous pensons qu'un autre, humain ou divin, nous empêche de réaliser ce que nous voulons. Mais la sécurité qu'on trouve auprès de notre Père nous permet de voir l'autre, non comme une menace incontrôlable, mais comme quelqu'un qui va nous apporter un autre éclairage pour améliorer notre futur. Notre colère pourra alors s'évanouir parce que l'espérance est ancrée dans la foi et qu'elle renouvelle notre présent. Elle nous donne un avenir et une assurance, une nouvelle assurance. Ce n'est pas l'espoir humain, incertain, incontrôlable avec lequel nous devons composer, mais avec un avenir garanti par Dieu. Et cela nous rend fermes, patients, même si la vie n'est pas toujours tendre. Ça nous redonne la joie, ça nous redonne de la reconnaissance et nous pousse à la louange. L'espérance, elle nous console, elle nous donne confiance, même face à la mort, quand elle se trouve au détour de notre chemin. Elle nous donne aussi le désir de mener une vie pure, car si l'avenir que nous promet Dieu est radieux, il est composé aussi d'un jugement qui va influer sur la façon dont nous allons vivre cet avenir éternel. Un jour, chrétien ou non, nous allons nous retrouver face à face avec Dieu. Alors, avec quel bilan et dans quel état nous présenterons-nous devant lui? Avec toutes ces choses que nous aurons accumulées sur la terre par nos propres efforts en contrôlant nos vies, ou avec toutes les marques d'amour, d'honneur, de bonté que nous aurons manifestées dans notre vie aux autres? dans notre monde occidental déchristianisé et désenchanté. Ce monde qui était jusqu'à présent un peu préservé de cela, la mort s'invite brutalement et ce Covid nous le rappelle. Et cela nous oblige un peu plus à nous demander sur quoi nous fondons notre vie. Autrefois, la religion tenait une grande place dans la vie des hommes. Et la crainte de l'enfer et des jugements les poussait à veiller sur leurs actes. Aujourd'hui, c'est démodé tout ça. Et beaucoup de personnes vivent sans avoir la certitude qu'après la mort, il y ait une vie. Et de surcroît, une vie qui pourrait être faite de paix et de bonheur. Vous vous souvenez, Christophe Maé, il chantait « Il est où le bonheur ?» Et il finissait « Le bonheur, il est là. Le bonheur, il est là. » Alors en partie, c'est vrai. Mais quand la souffrance s'invite au cœur de la vie des hommes sans espérance, et on l'a vu au moment des attentats ou de cette pandémie, tout s'effondre autour des hommes. Car l'angoisse donne l'impression que la vie s'arrête, que la vie ne vaut plus la peine. L'homme sans espérance a beau être vivant, il est déjà mort, disait le philosophe suisse. Alors, l'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, propose une progression à développer dans notre vie. Il nous dit que tout d'abord, il arrive des tribulations, autrement dit des souffrances, des épreuves, des crises. Face aux épreuves et aux souffrances qu'elles occasionnent, on peut avoir diverses attitudes. On peut être impatient. On peut avoir des difficultés à accepter qu'il faut du temps pour que la vie s'épanouisse, pour que les difficultés rencontrées s'estompent, pour que ce qui a été brisé soit réparé, pour ce qui a été perdu soit retrouvé. Et ça nous fait bien penser au peuple d'Israël dans le désert. Dès qu'une difficulté survenait, le peuple s'impatientait, marquait son mécontentement. Le peuple ne voyait que son présent douloureux. C'est bien aussi notre cas souvent. Il ne voyait pas au-delà de l'endroit inhospitalier la terre promise et les bénédictions dont elle regorgeait. On peut aussi être frustré parce qu'on a du mal à admettre que le plan de Dieu n'est pas forcément le nôtre. Souvent, on imagine qu'on va réaliser tel ou tel projet ou que les choses vont se passer de telle ou telle façon. Mais lorsque ce n'est pas le cas et qu'il s'avère que Dieu propose un autre chemin, alors souvent, on peut être frustré. Et on peut même en arriver à la dépression. Certaines épreuves sont particulièrement difficiles à surmonter et donner l'impression qu'il n'y a plus d'avenir. Et dans ces cas, on finit par se replier sur nous-mêmes, sur notre passé, car c'est tout ce qui nous reste. Et ça peut nous rappeler Élie au désert, qui s'était écroulé, découragé, à cause de Jézabel qui voulait le tuer. Vous savez qu'en France, à peu près tous les ans, il y a 200 000 personnes qui tentent de se suicider. Il y en a 12 000 qui y arrivent. Bon, il y en a qui sont moins doués que d'autres, hein. Mais ça témoigne bien de cette absence d'avenir, d'espérance et ce vide qui est en l'homme. Mais face aux difficultés, il y a une autre attitude qu'on peut développer. C'est celle qui consiste à consentir à souffrir. On peut consentir à ce que l'épreuve que nous vivons est là et qu'elle engendre une certaine souffrance. Mais grâce à la foi et à cause de la fidélité de Dieu dans le passé, et parce que nous lui faisons confiance pour l'avenir, on peut choisir d'être persévérant et patient. On réalise que l'épreuve va durer un certain temps, mais nous sommes prêts à l'endurer car quelqu'un est là pour nous aider à la traverser, quelqu'un sur qui nous pouvons compter de façon indéfectible. Il a promis d'être tous les jours avec nous. Alors celui qui, face à la difficulté, n'est pas impatient, frustré ou déprimé, mais persévérant, expérimente peu à peu la fidélité de Dieu qui se manifeste au fil du temps. Et cette fidélité conforte son espérance. Le passé qui devrait nourrir la foi et les difficultés ne sont que l'obstacle sur les chemins qui empêchent de voir la suite de la route. Celui qui a éprouvé la fidélité de Dieu dans sa vie peut de façon persévérante et patiente la découvrir au fur et à mesure et voir la délivrance arriver. L'espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est Paul toujours aux Romains. Si notre vie ne plonge pas ses racines dans la foi et ne déploie pas ses branches de son espérance vers le ciel, nous aurons beaucoup de mal à vivre le présent. Lorsque celui qui souffre a appris à persévérer, à devenir fidèle, il devient assuré de l'amour constant de Dieu dans sa vie. Étant en paix pour lui-même, il peut alors tourner les regards vers les autres, les aimer, leur communiquer cette espérance qu'il a au plus profond de lui. Vous vous souvenez que l'apôtre Paul nous encourage à nous réjouir toujours? Quand la détresse frappe, quand le malheur surgit ou qu'il y a des épreuves dures, on n'a pas toujours les motifs de se réjouir. Et pourtant, on peut toujours rester dans une joie intérieure que rien ne peut nous enlever, celle de savoir que nous avons un avenir radieux, glorieux, un avenir qui nous attend. Et savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Cette joie-là, elle est réservée à ceux qui ont réalisé qu'ils n'étaient qu'étrangers et voyageurs sur cette terre. Et comme je l'ai lu dans une église il y a quelques années déjà, que nous ne sommes que des voyageurs qui s'attardent. Et j'aime bien cette notion. On voyage, on s'attarde un peu. La vie sur cette terre, ce n'est pas notre destination. Elle est simplement, comme dans un aéroport, une porte d'embarquement. On est en transit. On attend l'appel de celui qui va nous faire vivre le plus beau des voyages vers la plus belle des destinations. Notre terre a promis à nous le royaume de Dieu. On vit sur cette terre en ayant conscience qu'elle peut s'arrêter à tout moment, n'importe quand, et qu'alors la véritable aventure commence. Non, il y a peut-être une urgence pour nous, une urgence de nous poser tout à nouveau les bonnes questions. Sur quoi fondons-nous notre vie? Sur quoi fondons-nous notre avenir? C'est peut-être le temps de nous interroger sur nos choix, sur les orientations que nous désirons prendre, pas seulement pour maintenant, mais aussi pour l'avenir éternel. La question principale reste à savoir vers quel vol nous allons être dirigés quand l'appel du départ va venir. Parce qu'il y a un vol pour le royaume des dieux. Et puis il y a un autre vol, une autre destination, celle où ne se trouve pas Dieu, qui est beaucoup moins belle, qu'on appelle l'enfer. L'enfer. L'enfer, on ne veut plus bien en parler. Mais il est bien d'y avoir quand même dans l'esprit, même si on n'aime pas en entendre parler. La deuxième question reste à savoir comment nous allons vivre le présent. Alors peut-être avons-nous cette espérance d'être dans le bon vol, cette espérance certitude. Mais alors dans ce moment de transit, comment nous occupons-nous? Est-ce qu'on on est juste des consommateurs du siècle présent, cherchant à profiter des avantages qu'offre ce monde? Ou bien est-ce que le même amour que Dieu a pour nous, qui nous étreint et qui fait déborder notre cœur pour ceux qui nous entourent, avons-nous cette soif qu'eux aussi soient dans le même vol que nous? Alors si oui, allons et communiquons cette espérance à ceux qui nous entourent, ceux qui ne l'ont pas autour de nous. Parlons-leur de ce Dieu qui ne ment pas, qui leur offre la garantie d'un avenir éternel et d'une présence constante à leur côté. Apprenons-leur à accepter cet avenir que Dieu leur réserve. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur, parce que l'espérance que tu nous offres est certaine et qu'elle n'est pas pour cette terre. L'espérance que tu nous offres est éternelle et qu'elle est radieuse et elle est certaine. Merci Seigneur, parce que nous pouvons nous appuyer sur cette espérance, parce que nous savons que tu ne mens pas, que tout ce que tu dis, tu le réalises. Et tu nous as fait cette promesse et nous y croyons fermement. Que cette espérance puisse nous aider à traverser cette vie et cette semaine qui arrive, Seigneur, et que nous puissions la vivre à ta gloire, que nous puissions la vivre en répandant cette nouvelle autour de nous que toi, tu es le Dieu qui donne l'espérance. Amen.